grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Pour ce bon vieux Schopenhauer, notre existence subit un mouvement de balancier entre la douleur et l'ennui. Et pour Goethe, la vie n'oscille pas entre le bonheur et le malheur, mais entre le malheur et l'ennui. Nous redoutons tous l'ennui, synonyme de vacuité, de tristesse, d'impression de vide, de lassitude, d'occupation monotone et sans intérêt. Les enfants et les adolescents ressentent l'ennui comme si c'était une punition, un empêchement, un fil à la patte, une assignation à résidence. Souvenez-vous quand vous étiez enfant de ces journées qui s'étiraient de façon morne, comme un 1er mai, de ces jours d'école où l'on s'ennuyait ferme à l'écoute de certains professeurs. Mais faut-il absolument éviter que ces enfants ne connaissent pas le sentiment de désœuvrement? Que faire quand ils vous serinent, qu'ils s'ennuient et qu'ils veulent faire des choses? Pourquoi ressent-ils cette impression de vide? Nous verrons quelles sont les vertus de l'ennui pour leur cerveau et leur créativité. Avec nous ce matin, Erwan Devez, consultant neurosciences, le psychologue clinicien Didier Pleu et la journaliste Gwenaëlle Boulet. Et vous, que faites-vous quand vos enfants ou petits-enfants vous disent qu'ils s'ennuient? Racontez-nous l'ennui que vous ressentiez quand vous étiez petit. Et si vous êtes un enfant ou un adolescent qui s'ennuie souvent à l'école ou à la maison, appelez-nous au 01 45 24 7000. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Erwan Devez.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes consultant en neurosciences et vous publiez un livre passionnant chez Larousse, 24 heures dans le cerveau de votre enfant. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Rédactrice en chef du bimensuel Astrapi. Avec nous au téléphone, Didier Pleu. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et l'auteur de Développer la concentration de son ado. Et je vous souhaite un bon anniversaire, cher Didier. Je sais pas quel âge vous faites, mais bon. Et Patrick Lemoine est avec nous au téléphone. Bonjour Patrick Lemoine.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, chercheur en neurosciences. Et vous avez publié il y a une dizaine d'années « S'ennuyer, quel bonheur » chez Armand Collin. Alors l'ennui, c'est donc cette impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occupation monotone sans intérêt. Erwan Devez, quelle est votre définition de l'ennui? C'est une notion assez floue et très subjective.
Exactement. En fait, l'ennui est très ambivalent. C'est-à-dire qu'on l'associe toujours, et vous l'avez fait en introduction, en fait, à des notions de tristesse, de dépression, etc. Donc des notions de fainéantise, des notions extrêmement négatives. Et on parle très peu des autres vertus de l'ennui, et en particulier sur la créativité, sur l'aspect social. Et d'une certaine façon, l'ennui porte conseil. Et il est temps de réhabiliter cette notion là, parce qu'elle est absolument essentielle et les neurosciences nous apportent des éléments de compréhension qui sont tout à fait intéressants.
L'ennui porte conseil, je note. Patrick Lemoine, il existe deux grands types d'ennui, hein, pour le dire vite. L'ennui pathologique, hein, qui peut être le symptôme d'une maladie psychiatrique, et puis l'ennui qui survient naturellement, ponctuellement dans sa vie quotidienne.
Enfant, il y aurait encore d'autres variétés d'ennui. Mmh. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Alors l'ennui pathologique, bien entendu, on lutte contre l'ennui de la personne qui sombre vers la démence, qui est en EHPAD et qui ne sait pas quoi faire de ses journées. C'est sûr qu'il faut lutter contre, il faut essayer d'occuper ces personnes âgées. L'ennui du déprimé, l'ennui du schizophrène, neuroleptisé, sont des choses également ravageuses, qui n'ont rien de productif. En revanche, effectivement, il existe une forme d'ennui qui peut être particulièrement productive, comme les neurosciences nous l'enseignent, en effet.
Alors, Gwenaëlle Boulet, vous avez repéré, de façon un peu pratique, hein, cinq grands types d'ennui qui peuvent affecter les enfants et les adolescents.
Oui, alors, c'est pas moi qui les ai repérés, hein, mais oui, on parle de différents types d'ennui, par exemple, un ennui indifférent, un ennui de calibrage, un ennui de recherche, ennui réactif, apathique, voilà, c'est des mots qu'on a mis, qui étaient en fait des sortes de degrés. On a fait noter par des gens avec des degrés qui sont avec à la fois la notion sensation de, qu'est-ce que, le ressenti de l'agréable. Est-ce que c'est vraiment désagréable ou juste un petit peu désagréable? Et puis, une notion d'éveil, où on calculait un petit peu le moment où le cerveau était très éveillé ou complètement apathique. Et donc, on voit qu'il y a dans l'ennui, dans cette grande, qui est une forme de, d'état émotionnel, j'ai envie de dire, qui, où on sent quand même une forme de désagrément, de, d'inconfort, on va dire, il y aurait plein de types d'ennui, voilà. Et donc, c'est au sein de cette grande famille qu'on va pouvoir chercher qu'est-ce qui est productif et va permettre de produire de la créativité, etc. Et puis, qu'est-ce qui, effectivement, ne l'est pas.
Didier, l'une des clés pour comprendre l'ennui des enfants et des adolescents, c'est l'intolérance à la frustration. Rappelez-nous les grands principes de votre fameuse intolérance à la frustration, très liée au principe de plaisir.
Oui, effectivement, parce que pour moi, si l'ennui chez l'adulte, c'est souvent synonyme de spleen et de dépression, pour moi, l'ennui, c'est un incontournable pour éduquer les enfants, effectivement, puisque l'ennui, c'est justement l'inverse du trop-plein, du trop-plein d'activité. L'ennui, c'est le manque. Et le manque, c'est la frustration. Et comme vous le savez, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de frustration, de déplaisant, d'effort, etc., et qu'il n'y a que du plaisir dans la vie de l'enfant, mais dans ce cas-là, il y a ce fameux déséquilibre que j'ai appelé le complexe de Tétis, parce que dans ce cas-là, l'enfant développe une intolérance aux frustrations, c'est-à-dire qu'il attend de l'environnement que ce soit toujours fun, rempli, riche, stimulant, etc. Et c'est pour ça que c'est un grand danger, parce que s'il y a cette disharmonie entre du rien et du trop-plein, dans ce cas-là, l'enfant va être très très peu solide devant le principe de réalité. Et c'est surtout ce que ne veut pas, bien sûr, la société de consommation qui veut que l'enfant soit toujours rempli.
Erwan Deves, pouvez-vous nous expliquer le circuit du plaisir dans notre cerveau, intimement lié à ce sentiment d'ennui ?
Oui, alors c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand nos enfants sont bombardés de stimuli, ils vont activer ce circuit de la récompense, ce circuit dopaminergique, donc ils vont devenir d'une certaine façon des junkies dopaminergiques, et le problème c'est que notre cerveau, il a un principe d'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'il faudra toujours augmenter les doses pour avoir le même niveau de confort et de plaisir, donc ça veut dire que on devient addict, et effectivement l'industrie du divertissement a bien compris ce mécanisme-là. Et donc, nos enfants deviennent, en fait, s'ennuient non pas parce qu'ils n'ont pas d'activité, ils s'ennuient parce qu'ils ont trop d'activité et surtout parce qu'ils n'arrivent plus à éprouver du plaisir à faire ces activités. On est dans une société de trop-plein.
Patrick Lemoine, vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait, dans le sens que, vous voyez, moi j'ai un souvenir d'enfance, je me suis beaucoup ennuyé dans mon enfance parce que j'étais à la campagne, j'avais pas de petits copains, parce que c'était très isolé. Et donc sur le coup, j'aimais pas vraiment, mais maintenant, j'y pense avec énormément de nostalgie. Et je pense qu'en effet, comme la nature a horreur du vide, on vient de parler du vide, de l'ennui, eh bien, on remplit, et avec quoi on remplit ? On remplit avec la rêverie. Et la rêverie, ben, c'est l'imagination, c'est l'intelligence. Et je crois qu'en effet, je dirais tout à fait comme mon prédécesseur, que l'industrie a bien compris qu'en hyperstimulant les enfants, ben, on leur évite cet ennui, on leur évite toute frustration, mais à la limite, ça rend idiot, parce qu'on ne peut pas développer ses capacités de créativité, d'imagination. Alors je dis pas qu'il faut que les gamins se barbent du matin au soir, je dis simplement qu'en fonction de leur âge, il faut qu'il y ait des plages d'inactivité. Actuellement, on voit que, entre guillemets, les bons parents doivent tout le temps stimuler leurs enfants, tout le temps les occuper, tout le temps leur proposer des tas de jeux à outrance, des lectures, etc. Et je pense qu'en effet, c'est un vrai grand danger d'empêcher les enfants de rêvasser, de rêver, d'avoir des rêveries. Et ça, je crois que c'est dramatique. Et c'est bien qu'on ait justement l'occasion d'en parler, de cette chose-là. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que je suis frappé de voir l'apparition d'une nouvelle maladie qui est le trouble hyperactif, qui coïncide justement avec cette nécessité qu'il y a de tout le temps hyperstimuler nos enfants.
Gonelle Boulay.
Oui, je crois que dans la question de l'émission, c'était « Faut-il laisser nos enfants s'ennuyer ?» Je crois que c'est retravailler tous, généralement, notre propre rapport au vide et à l'ennui. Et je pense que si les parents ont tant de mal à supporter parfois que leur enfant dise « Je m'ennuie » et que la réponse qu'ils ont, c'est d'apporter tout de suite des activités, de l'écran, etc., de vouloir combler absolument cet ennui, c'est plus une projection et un questionnement de notre propre rapport au vide et à l'ennui. Parce que si on travaille cette question de la culpabilité de laisser l'ennui, si on est nous-mêmes à l'aise avec le rapport au vide, à l'ennui, si on est nous-mêmes persuadés, parce qu'on le vit, que de ça sortent des choses bénéfiques, etc., globalement, on va réussir à laisser s'ennuyer nos enfants. Donc c'est ça qu'il faut interroger, je crois, c'est notre propre rapport à l'ennui en tant qu'adulte.
Erwan Deves.
Oui, alors on va être aussi, on va être très positif. En fait, on va expliquer pourquoi c'est si important de s'ennuyer pour l'enfant. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans une activité cognitive, quand votre enfant joue à un jeu vidéo, vous allez avoir une activation d'une partie du cerveau qui va prendre le dessus. Quand votre enfant ne fait rien, en apparence, vous allez avoir en fait différentes activations, vous allez avoir des associations inédites, c'est-à-dire que des zones du cerveau vont se parler entre elles, qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et donc là, vous allez avoir de la créativité, vous allez avoir de l'imaginaire, vous allez avoir plein de choses positives qui vont ressortir de tout cela. On a aussi, certaines études ont travaillé aussi sur le niveau de relation sociale, le comportement en fait social des enfants, qui effectivement, au travers de l'ennui, peuvent nourrir leur curiosité, leur sens de l'observation. Donc effectivement, s'ennuyer est un besoin absolument vital pour le cerveau.
Patrick Lemoine, quand on maîtrise son ennui, ça peut aller, ça se complique hein, quand on ne sait pas combien de temps ça va durer. Par exemple, dans les longs trajets en voiture, regarder un film pendant un trajet sur l'autoroute, bah, ça permet aux enfants de meubler leur ennui.
Ah oui, je vous cache pas que quand je vois mes petits-enfants à l'arrière avec leur tablette en train de regarder des dessins animés, je suis assez envieux parce que quand j'avais leur âge, il n'y avait pas l'autoroute en plus, et qu'on passait 6 heures soit à s'ennuyer, soit à se battre avec les frères. C'est vrai que je regrette bien de ne pas avoir eu ça à l'époque. Je l'ai bien dit, un enfant de 5-6 ans, faut pas qu'il s'ennuie plus de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai envie de dire. Quand on est plus grand, on peut s'ennuyer un peu plus longtemps, mais en même temps, on va pas non plus les torturer avec des 4, 5, 6 heures sans rien faire à l'arrière d'une voiture. Donc je pense que la modération et le bon sens doivent l'emporter. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec la psychologue qui dit que c'est la projection de l'incapacité des parents à supporter le vide qui est fait sur les enfants. Et moins les enfants supportent, moins les parents supportent l'ennui, bah, plus ils vont vouloir hyperstimuler les enfants, qui vont reproduire le modèle avec leurs propres enfants. Tout ça pour le grand profit de toute l'industrie du jeu.
Patrick Lemoine, à l'adolescence, est-ce qu'on peut dire que certaines conduites à risque sont liées à l'ennui? Parce que l'ennui des jeunes a souvent effrayé nos sociétés.
Absolument, ça c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans mon livre, et j'ai même jusqu'à dire que la drogue, par exemple, qui tout de suite, ou l'alcool, qui apporte immédiatement une distraction, qui apporte immédiatement une espèce de rêve artificiel, découle de cette incapacité à accepter la frustration de l'ennui. Et en effet, quand on voit par exemple La Fureur de Vivre avec James Dean, où les ados ont des conduites à risque en roulant le plus vite possible près d'une falaise, eh bien, on voit bien qu'ils luttent contre l'ennui, tous ces adolescents-là. Et je crois que l'adolescence est le moment le plus important de l'intolérance à la frustration, et c'est là qu'on doit leur dire de temps en temps que, bah oui, tu t'ennuies, c'est pas grave, on n'en meurt pas, on va rester un petit moment à s'ennuyer, voire à méditer s'ils sont très réceptifs. Mais l'adolescence est le moment, en effet, à haut risque, où les adolescents le refusent absolument, d'où les écrans, d'où la drogue, d'où l'alcool, d'où les conduites à risque.
Didier Plot, est-ce que l'ennui est un motif de consultation dans votre cabinet?
Oui, parce que le plus souvent, effectivement, ce que je vois, ce sont des adolescents ou des enfants qui ne supportent pas l'ennui. Donc souvent, ils ne consultent pas parce qu'ils s'ennuient, mais ils consultent parce que les parents sont très inquiets, parce que ces enfants-là ou ces ados-là n'acceptent pas du tout ce qui est difficile, je répète, frustrant et contraignant, puisqu'effectivement, il y a un grand lien entre le refus de l'ennui et, par exemple, l'attention. Souvent, on parle d'hyperactivité avec trouble de l'attention, mais ce que l'on voit aussi, c'est que ces jeunes qui sont étiquetés TDAH peuvent très, très bien rester de longs moments devant une vidéo parce que c'est très sympathique devant un jeu, mais par contre, n'arrivent pas à avaler 4 pages d'un texte français un peu plus rébarbatif. Donc, il y a bien un lien entre ce refus de ce qui est pas drôle, de ce qui n'est pas immédiat, et le long terme, etc. C'est pour ça que je dis souvent, quand les parents sont très souvent de vrais animateurs de Club Med. Quand ils essaient de pallier cette demande contre l'ennui des enfants, ben on voit bien que tous les dimanches, ils font plein de choses pour leurs enfants, et le mercredi aussi. Et il n'y a pas de place, on l'a dit, pour leur rien. Et donc là, il faut faire très attention, parce que les parents, à ce moment-là, sont chosifiés. C'est-à-dire, vous n'êtes là que pour animer notre carence et notre désir d'avoir du plaisir immédiat. Et c'est pour ça que je dis souvent dans la voiture, ben non, les vidéos en voiture, non, un enfant peut très bien rêver, et puis pas simplement 5-10 minutes, c'est on rêve à la destination, et puis à un moment donné, on crée un jeu, et puis à un moment donné, on se parle entre nous. Donc tout ce qui est de l'immédiateté dans le sens consommation est très 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 mauvais, parce que ça empêche non seulement la créativité, la rêverie, mais la concentration et surtout la tolérance aux frustrations.
Erwan Devez.
Oui, ben on est en fait dans cette société de l'apicratie, c'est-à-dire cette tyrannie du regard de l'autre. On veut toujours faire mieux, faire bien. L'ennui devient aussi un marqueur social. Quand vous avez des enfants qui reviennent des vacances et qui n'ont pas fait des choses extraordinaires, qui ne sont pas allés au sport d'hiver, qui n'ont pas fait ceci, cela, ils sont stigmatisés. Donc l'ennui devient un marqueur social. Mais la grande erreur que l'on fait tous, même en voulant bien faire, c'est que si on s'attache à vouloir combattre l'ennui par des stimuli externes à profusion, on va se tromper un bon moment. Donc il faut aller vers autre chose, et là on arrive vers cette dimension effectivement plus introspective, plus de réflexion sur soi, de connaissance de soi, et encore une fois, comme l'a dit le professeur Lemoine tout à l'heure, avec un bon mix entre des activités cognitives et des activités plus de réflexion.
Patrick Lemoine, on reçoit un courriel qui nous dit « Mon papa me disait, lorsque je m'ennuyais, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Si on remonte au Moyen-Âge, l'assédie des moines était vivement combattue. L'assédie, c'est l'ennui, le dégoût de la prière et le découragement qui était donc vivement combattu par l'Église catholique. Ça reste encore très prégnant dans beaucoup de têtes, cette idée que l'ennui est la mère de tous les vices. » Comme l'oisiveté.
C'est vrai que les vies sont tellement de mères que quand ils crient maman, il doit y avoir foule autour d'eux. Hein. Mais pour plus sérieusement, effectivement, vous faites allusion à un combat planétaire qui existe depuis le Moyen-Âge et qui perdure encore aujourd'hui. À savoir qu'il y avait d'une part l'Église catholique avec les moines et le démon méridien, et qui faisait que cette assédie, qui est l'équivalent de la mélancolie et de l'ennui, c'est quelque chose qui est intermédiaire, qui faisait que vers midi, le moine qui s'ennuyait risquait de perdre la foi et au lieu de prier, il se barbait et il regardait à la fenêtre du couvent, ce qui était pas bien, mais pas dramatique pour l'Église. Alors que les protestants, si vous reprenez les textes de Luther, de Melanchthon, qui était un peu son attaché de presse, même s'il s'entendait mal, disait qu'il faut surtout pas être inactif, surtout pas s'ennuyer, parce que l'ennui est effectivement la mère du vice principal, qui est, pardon si on est à une heure de grande écoute, mais c'est la porte ouverte à la masturbation, qui est quelque chose d'horrible. Parce que l'argot dit, quand on s'ennuie, bah, j'ai rien à branler, qu'est-ce que tu branles? Donc vous voyez que quand même, l'analogie est vite faite. Et donc, les protestants ont toujours dit, faut pas s'ennuyer, faut faire la fête, faut courir les filles, faut picoler, faut manger. Et on voit bien que toujours aujourd'hui, dans le monde protestant, time is money. On doit être très actif, on doit sans arrêt faire, alors que dans le monde plus catholique, donc plus latin, la rêverie, la sieste, un peu la paresse sont quand même mieux tolérées. Et cette guerre, en fait, de religion autour de l'ennui, est une chose qui a plus de 1000 ans, et qui continue entre cette querelle, on va dire, Trump-Macron, entre les hyperactifs et ceux qui disent on prend son temps, on peut glander un peu, c'est pas grave.
Et cette querelle, c'est donc laïcisée. Merci Patrick Lemoine, je vous laisse filer parce que vous êtes sur la route. Bien heureusement, vous vous êtes arrêté sur une heure pour nous parler. Merci beaucoup Patrick Lemoine d'être intervenu ce matin. Allez, racontez-nous votre ennui quand vous étiez plus jeune. Si vous êtes un enfant ou un adolescent qui s'ennuie souvent à l'école ou à la maison, appelez-nous au 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Leprince.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutaient en rêvant la petite fille au tourne-disque fort. Le parfum, imagine le parfum, l'Éden, le jardin, c'était pour demain. Ce n'est que partie remise par les couleurs, les accords, les parfums. Changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée pas dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre.
Laurent Voulzy, le pouvoir des fleurs.
Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Je sais pas quoi faire.
Grand bien vous fasse.
Allez, occupe-toi.
J'ai rien à faire.
Allons, on a toujours un petit quelque chose à faire.
Sur France Inter.
10h29, faut-il laisser les enfants et les adolescents s'ennuyer ? C'est notre question ce matin. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Vous avez parlé d'ennui, alors c'est pas mal l'ennui. Enfin, un ennui qui est assez formateur, et à l'époque je devais être jeune père et je voyais que on était très obsédé par les activités que devaient faire les enfants et tout ça, occuper tous les mercredis après-midi, etc. Et alors que c'était pas une préoccupation de mes parents, mais finalement ça m'a permis d'écouter la radio, de bouquiner, d'aller à la bibliothèque, de tâtonner un peu dans ce monde-là, et puis de me demander ce que j'allais faire plus tard, de rêver un peu à sa vie. Mais j'ai l'impression que tous les enfants ont ce sentiment-là, c'est-à-dire l'enfance interminable. L'enfance entre 5 ans et 18 ans, mais qu'est-ce que c'est long ? Qu'est-ce que c'est long l'école ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire le grand saut, de passer à la vie active, etc.
Les vertus de l'ennui évoquées par ce cher François Morel en 2014 sur France Inter. Gonelle Boulet, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef d'Astrapi, qui est destinée aux 7-11 ans. Est-ce que c'est une plainte qui revient souvent de la part de vos lecteurs, cette question de l'ennui ?
Alors oui, c'est marrant, on a des enfants qui nous parlent pas mal de ça, mais tout de suite après, par exemple, alors sans vouloir faire à fond la pub pour magazine, par exemple, ils nous disent « Ah, ce qui est génial, c'est que j'ai toute ma collection d'Astrapi, et du coup j'y retourne, et du coup je trouve plein d'idées. » C'est-à-dire qu'il y a toujours cette phase d'inconfort de l'ennui, et puis tout de suite après, il y a cette force de l'enfance, quand même, d'aller chercher des idées. Et j'interrogeais ma fille sur ce qui se passait chez elle quand elle s'ennuyait, elle a 10 ans, et elle m'a dit quelque chose que je trouvais assez génial. Je lui demandais est-ce que c'était la même chose quand elle était devant un écran ou quand elle s'ennuyait. Elle me dit, ah non, 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 maman, mon cerveau, il fait pas du tout la même chose. Quand je suis devant un écran, il travaille pas, il se repose. Mais quand je m'ennuie, je sens bien qu'il cherche une idée. Et c'est vraiment ça, ils vont trouver l'idée, et alors que ce soit dans leur bouquin, dans les fameux placards dans lesquels il y a plein de jouets qu'on ressort jamais, là. Il faut réouvrir les placards et on va toujours trouver des petites choses.
Bonjour Vadim, bienvenue. Bonjour Vadim. Bonjour Vadim.
Bonjour.
Tu appelles de Gap et tu as 7 ans.
Oui.
Et tu avais envie de témoigner ce matin. On t'écoute avec grand plaisir.
D'accord.
Tu t'ennuies là en ce moment?
Oui, voilà, je m'ennuie souvent.
Pourquoi?
Parce que mes sœurs ne veulent pas souvent jouer avec moi, on va dire, et que j'aime pas jouer tout seul.
Ah oui. Alors qu'est-ce que tu fais justement quand tes sœurs ne veulent pas jouer avec toi et que tu ressens cet ennui? Qu'est-ce que tu fais?
Soit je demande avec le maman de jouer avec moi.
Mmh.
Ou soit je vais demander à maman d'inviter un copain.
Ouais. Et alors qu'est-ce que tu ressens, Vadim, quand tu t'ennuies? Tu ressens quoi?
Je ressens que je suis un tout petit peu triste.
Mmh.
Et ça, c'est... Alors du coup, c'est tout.
Qu'est-ce qu'on pourrait, Thierry Gonel, bouler Vadim et pile poil dans la tranche d'âge d'Astrapi, qu'est-ce qu'on peut dire à Vadim qui s'ennuie parce que ses grandes sœurs veulent pas s'amuser avec lui?
Eh ben, Vadim, moi je te dirais bien que comme tu sais que ça va revenir, ce petit moment d'ennui, tu peux peut-être t'y préparer. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a plein de moments où t'as pas le temps de faire les choses que t'aimerais bien faire et que tu peux peut-être te faire une petite boîte en carton dans lesquelles tu vas te mettre au fur et à mesure des petits papiers. Par exemple, t'as pas eu le temps, je sais pas moi, de faire des bulles de savon avec le truc qu'on t'a offert la dernière fois, t'as pas eu le temps de faire le dessin pour un petit copain, j'en sais rien. Toutes les idées qui te viennent, quand t'as pas le temps de les faire, tu les notes sur des papiers et tu les mets dans ta petite boîte. Et le jour où tu t'ennuies, t'ouvres ta petite boîte et tu ressors tes petits papiers. Et je suis sûre qu'il y aura plein d'idées que t'auras mises de côté et qui vont nourrir tes petits moments d'ennui.
Ça te va, Vadim?
Cette
petite boîte, moi je trouve cette idée formidable, cette petite boîte avec des papiers qu'on tire au sort de temps en temps. Je pense que ça peut être pas mal quand tes sœurs ne veulent pas jouer avec toi. Merci beaucoup, Vadim, de nous avoir appelé ce matin. C'était très sympathique de t'avoir. Erwan Devez, je rappelle que vous êtes consultant en neurosciences. Expliquez-nous pourquoi l'ennui est si important dans le développement cérébral de l'enfant. Je rappelle que vous avez publié 24 heures dans le cerveau de votre enfant.
Alors, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est effectivement le cerveau, il se nourrit de la nouveauté. Il se détruit un peu de la routine. Donc ça, c'est un élément très important pour la construction et le développement de l'enfant. Mais le cerveau, il peut pas apprendre en permanence. Sinon, il est en surcharge. Il est en surcharge mentale. Donc, il a besoin, comme ça, de temps de repos. Il a besoin de temps de régulation émotionnelle. Donc, l'ennui, en fait, est une fonction qui est très naturelle. Ça permet au cerveau de reprendre un peu d'oxygène, si vous voulez. Et puis, encore une fois, ça permet au cerveau de se projeter dans d'autres dimensions, si vous voulez. Quand vous êtes dans une activité cognitive, vous êtes dans l'immédiateté. Vous allez apprendre, vous allez jouer, vous allez faire quelque chose. Et quand vous êtes dans une activité non cognitive de type en apparence ennui, là, vous allez pouvoir imaginer, vous projeter dans l'avenir, être donc effectivement être plus créatif, anticiper, travailler sur ses capacités d'anticipation. Donc, c'est pas du temps perdu. C'est ça qu'il faut. C'est là-dessus qu'il faut insister, c'est que l'ennui en aucune façon est du temps perdu. Il faut trouver un bon équilibre entre les phases cognitives et les phases d'ennui.
Et est-ce qu'on peut dire que l'ennui permet de nettoyer un trop-plein dans le cerveau?
Alors oui, alors c'est en particulier le sommeil qui permet cette régénération neuronale et qui permet de un petit peu de passer les neurones au karcher. L'ennui permet surtout par rapport à cette surcharge mentale, ce cerveau cognitif qui est totalement affolé, il permet de baisser la pression.
Didier Pleu, docteur en psychologie du développement, sur les bienfaits de l'ennui dans le développement de l'enfant et de l'adolescent.
De toute façon, notre chercheur en neurosciences vient de le dire, et je suis tout à fait d'accord avec lui, le cerveau a besoin de l'ennui, parce que c'est quand il y a un déséquilibre, quand effectivement un enfant ou un adolescent se trouve devant quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas forcément plaisant, qui est déséquilibrant, qu'il y a ce qu'on appelle une nouvelle accommodation, c'est-à-dire que à ce moment-là, on va anticiper, on va peut-être imaginer, on va peut-être créer une nouvelle chose. Donc, sur le plan neuronal, c'est absolument incontournable, puis je dirais sur le plan personnalité, le petit témoin que nous avions tout à l'heure, oui, c'est vrai, il faudra lui qu'il trouve des petites
combine pour ne pas trop s'ennuyer, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce aussi insupportable l'ennui? Il faut aussi que les enfants apprennent que on peut éprouver des émotions dites négatives, mais des émotions négatives adéquates. C'est normal d'avoir des moments de tristesse. C'est normal d'avoir des sentiments de frustration. Bien sûr, pas tout le temps, mais c'est normal. Et c'est ce qui faisait dire à l'intervenant Morel, qui disait qu'il avait une enfance interminable et ennuyeuse. Oui, mais c'est souvent ces moments d'ennui où on juge que c'est interminable et très ennuyeux qui nous font rêver de la vie adulte. Et souvent, ce que j'ai vu chez les enfants heureux, ce sont ceux qui acceptent ces moments difficiles de l'enfance parce qu'ils vont se projeter dans l'avenir, tout simplement, vivement que je sois grand.
Gwenaël Boulet.
Oui, on parlait aussi de différents types d'intelligence. Par exemple, on sait qu'il y a des intelligences qui vont être plus logico-mathématiques, langagières, naturalistes, qu'on appelle. Et ce qui est assez marrant, c'est que on aura beau être un parent et proposer des activités, quelque part, on projette ce qui fait notre vie à nous, c'est-à-dire ce qui nous semble important. Si on est très sportif comme parent, on va aller proposer des activités sportives à ses enfants, etc. Or, l'enfant, il va pouvoir construire son monde intérieur et sa personnalité propre que avec ce temps qui lui appartient. Et par exemple, c'est très intéressant qu'un enfant, avec ce temps libre qui n'est que son temps à lui et qui lui appartient, c'est là où tout à coup va lui prendre l'idée qu'il va plutôt être attiré par fabriquer une maquette. Ou alors, allez, il va faire ses collections, vous savez, les longues heures où on a classé nos collections. De gomme, de timbre, de ce qu'on veut, de pièces de monnaie et autres, il va aller plutôt faire, bricoler, ou alors c'est là qu'il va se dire, moi j'ai besoin de faire du sport. Et en fait, c'est là qu'il va pouvoir développer son intelligence propre et transformer des formes d'appétence qui sont un petit peu vagues en véritable passion.
Erwan Devez.
Oui, peut-être un message pour les parents. N'imposez pas trop vos choix à vos enfants. Surtout que ceux-ci, vos choix sont souvent le signe de frustration passée. Donc, il y a différentes formes d'intelligence. Il faut en France, enfin, qu'on en finisse avec cette vision. Si vous êtes nul en maths et en français, vous êtes un bon à rien. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de formes d'intelligence et donc il faut aller aussi trouver la forme d'intelligence de son enfant.
Quels sont ces différents types d'intelligence? Vous vous appuyez dans votre ouvrage, Erwan Devez, sur les travaux d'Howard Gardner, qui est professeur en cognition et en sciences de l'éducation à l'université Harvard. Il a répertorié 8 formes d'intelligence.
Oui, alors c'est une modélisation, il y en a d'autres, mais elle a le mérite d'insister sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique et verbalo-linguistique. Il n'y a pas que les maths et le français.
Quels sont autres types d'intelligence?
Alors, il y a l'intelligence de soi, il y a l'intelligence des autres. Ces deux intelligences sont absolument essentielles dans le monde d'aujourd'hui et plus encore dans le monde de demain. C'est là-dessus que on fera la différence. Il y a l'intelligence de la nature, naturaliste, l'intelligence du corps, kinesthésique, etc., etc.
L'intelligence musicale.
Oui, l'intelligence musicale qui est très importante. La musique nourrit le cerveau, il faut jamais l'oublier. Donc, il y a différentes formes d'intelligence.
Aussi, tout ce qui est lié au spatial. À l'espace, on voit ces enfants qui font des maquettes, les fameuses maquettes qui prennent un temps fou. Mais ça, c'est une des intelligences, par exemple, qu'on stimule pas toujours chez les enfants.
Absolument. Et donc, il faut être très attentif, très à l'écoute de son enfant pour ne pas lui imposer ses propres choix.
Les profs, des fois, ils endorment leur façon de parler et tout.
Parce que c'est toujours écrire, apprendre. Il n'y a jamais de divertissement.
Déjà, cette disposition de la salle de classe où le prof est devant nous, on l'écoute, il faut se taire, il faut la plupart du temps rester immobile. Des enseignements qu'on ne comprend pas forcément, c'est-à-dire qu'ils sont très très loin de nous.
Beaucoup d'élèves arrivent en classe avec une télécommande greffée au cerveau. Ils ont envie que l'attention soit renouvelée tout le temps, qu'il y ait une surenchère d'effets et d'images. Et cela fait que là où ils étaient capables de se concentrer 15 minutes, une demi-heure, aujourd'hui certains sont capables de se concentrer 3, 4 minutes.
Extrait du JT de France 2 en septembre 2015. Didier Pleu, comment expliquez-vous l'ennui à l'école? Dans votre cabinet, vous recevez beaucoup de parents, d'enfants et d'adolescents qui sont confrontés à cette question.
Oui, c'est exactement ce qu'on a entendu dans le témoignage quand un enfant disait on est des heures assis, le contenu scolaire n'est pas très drôle, etc. Souvent, beaucoup d'enfants et d'adolescents attendent que l'école, les apprentissages soient fun et que ce ne soit pas ennuyeux, que le prof soit passionnant, que le contenu soit effectivement très motivant. Alors, on entend toujours ce même leitmotiv qu'effectivement, un enfant apprend mieux dans le plaisir. Ça, tout le monde est d'accord. J'étais passionné des lettres, j'étais meilleur en français qu'en mathématiques. Mais si effectivement on va que dans le sens de n'apprenons que des choses plaisantes,
eh bien tous les incontournables vont passer à la trappe. C'est-à-dire, effectivement, le littéraire ne fera jamais de maths, le grand scientifique voudra peut-être pas faire une leçon sur l'art, etc. Donc faut faire très attention, faut mixer tout ça et non pas aller dans une sorte de démagogie, effectivement, de l'apicratie qui serait de bah, pour être heureux, enseignons dans le bonheur, enseignons à la carte, etc. Oui, il faut que les apprentissages ne soient pas comme autant des écoles grises super frustrants, mais de là enlever toute frustration dans l'apprentissage, il faudra aussi enlever le solfège pour les musiciens, enlever effectivement les entraînements pour les sportifs, etc. Enfin, tout ce qui est déplaisant. C'est pour ça que je dis souvent aux ados et aux enfants, mais non, je vais t'apprendre à supporter ce qui est pas fun. Parce qu'effectivement, dans tout apprentissage, il y a un moment donné où on a ce qu'on appelle le conflit cognitif. On l'a vu avec les neurosciences, c'est très bon pour le cerveau. C'est le moment où ça n'est pas plaisant, mais c'est le moment où on va falloir faire un effort, s'accommoder et accepter ce qu'on appelle le frustrant.
Vous avez utilisé le terme apicratie. Apicratie renvoie au titre de l'ouvrage de la sociologue Eva Illouz qui dénonce la dictature du bonheur. Erwan Deves, vous êtes d'accord avec cette idée que le déplaisant, l'ennuyeux, bah, c'est essentiel dans toute forme d'apprentissage ?
Oui, alors ça pose une question très importante. C'est-à-dire que l'éducation bienveillante, elle ne s'oppose en aucune manière à l'exigence. Et on fait souvent cette erreur, c'est-à-dire qu'on dit, alors les pros de la bienveillance disent il faut laisser l'enfant s'exprimer totalement libre, et puis les anti-bienveillants disent oui, mais bon, il faudrait quand même un petit peu recadrer les choses. En fait, je crois que la bienveillance, c'est un outil. C'est-à-dire que on ne peut être d'autant plus exigeant qu'il y aura un fond bienveillant et qu'on aura créé un état de sécurisation affective pour l'enfant. Donc ça, c'est absolument essentiel à comprendre. La bienveillance et l'exigence ne font qu'un.
Didier Plot, tout de même, pour un enseignant qui ennuie sa classe, c'est souvent vécu comme un échec tout de même. On se souvient tous quand même de professeurs absolument ennuyeux et ça peut être vécu comme un échec pour l'enseignant.
Ah bah, tout à fait, effectivement, un enseignant, il est là pour transmettre un savoir, mais si effectivement son savoir tombe sur du rien du tout parce qu'il est tellement monotone, monocorde, que personne ne l'écoute, ça ne marche pas. Donc c'est effectivement ce que vient de dire votre invité, c'est que le tout, c'est de pas d'être un enseignant frustrant, castrant, pas marrant, qui ne fait que transmettre, mais il faut pas non plus n'être qu'un animateur de Club Med avec de la vidéo, de la chanson, etc. Et qu'est-ce que c'est marrant d'apprendre ? C'est les deux. Et souvent, les parents ne savent pas faire les deux, quoi. C'est ni la bienveillance ni la malveillance, c'est les deux en même temps. Mais les deux en même temps, ça inclut effectivement de savoir donner du plaisir, mais savoir aussi frustrer l'enfant. On parlait tout à l'heure de ces enfants qui ne savent pas, qui ne sont pas très singuliers au niveau de leur goût quand les parents, effectivement, leur disent de faire ceci, cela, etc., le mercredi ou le dimanche. Oui, ils deviennent des enfants orchestres. Si les parents ne regardent pas les centres d'intérêt de leur enfant, c'est qu'ils ne les voient pas. Effectivement, quand un enfant s'ennuie, c'est là qu'on va voir s'il est plutôt tenté par faire une communication sociale, ou il est plutôt tenté par la créativité, ou il est plutôt tenté par faire un petit jeu, ou pour faire une sorte de commerce. On va voir les centres d'intérêt de l'enfant dans le rien. Si effectivement on leur plaque toujours une multitude d'activités, ça ne marchera pas.
Et Erwan Deves.
Oui, alors il y a des éléments peut-être très concrets pour aider les parents. Le métissage des cultures. Les écrans, ça peut être formidable, mais les écrans, c'est d'autant plus formidable que c'est associé aux livres, que c'est associé au sport en plein air, que c'est associé aux copains, etc. Donc il faut métisser les cultures. Le deuxième chose, c'est qu'on apprend mieux par l'expérience. Donc les apprentissages théoriques, on sait très bien que le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Et en particulier, le cerveau des enfants. Troisième chose, l'introduction du rire et du jeu. C'est pas encore une question de bienveillance. Le jeu permet à l'hippocampe, qui est une zone absolument essentielle de l'apprentissage, le jeu permet de préchauffer l'hippocampe et de la mettre dans les meilleures conditions d'apprentissage. Donc toutes ces données fondamentales, qui sont au passage largement inspirées de Montessori, hein, qui avait bien compris un siècle avant tout le monde le béaba de l'apprentissage au niveau neuronal, il faut s'inspirer de cela. Et s'inspirer de cela, ça ne veut pas dire remettre en cause ce qui a été fait pendant des décennies, ça veut dire simplement se servir de la nouvelle connaissance.
Il y a des enfants qui nous écoutent ce matin, c'est quoi l'hippocampe exactement ? Il sert à quoi ?
Alors l'hippocampe, c'est une zone en fait au niveau sous-cortical qui permet en fait d'apprendre. C'est une zone très importante. Si votre hippocampe est malmené, par exemple si vous êtes, on en a parlé tout à l'heure, en surmenage, si vous êtes en suractivation au niveau du cortex préfrontal, cette hippocampe n'arrivera plus à répondre. Ou alors si elle est stressée, si vous êtes en état de stress avéré, vous ne pourrez plus actionner cette hippocampe comme il le faudrait.
Bonjour Arthur.
Bonjour.
Bienvenue. Est-ce que tu savais que tu avais un hippocampe dans le cerveau?
Non.
Bon, mais voilà, t'as appris quelque chose. Tu appelles de Nantes, tu as 10 ans. Alors toi, tu t'ennuies souvent à la maison?
Oui.
Plus qu'à l'école?
Non, parce qu'à l'école, j'ai l'impression qu'on répète tout le temps trop de choses. Et donc, je dessine pour essayer de pas m'ennuyer. Ouais. Je cherche dans les livres.
Pourquoi tu t'ennuies à la maison?
Parce que souvent je veux faire des choses mais je peux pas. Mmh. Parce que des fois j'ai pas le matériel, mes parents me disent non. Et ils me disent c'est pas grave de s'ennuyer, mais ça m'agace qu'ils me disent ça.
Qu'est-ce qui t'agace quand ils te disent ça?
Parce qu'en fait moi j'aimerais bien faire des choses et ça m'agace de ne pas pouvoir les faire. Mmh.
Tiens, Erwan Deves, qu'est-ce qu'on peut répondre à Arthur ?
Eh ben, tu sais, Arthur, d'abord, bravo de venir comme ça parler. Je trouve ça génial. Tu sais, moi, j'étais comme toi quand j'étais petit. Je m'ennuyais très souvent à la maison. Et comme je m'ennuyais très souvent à la maison, j'étais super content de retrouver mes potes après, à l'école ou au foot, parce que justement, je m'étais un peu trop ennuyé à la maison, et donc j'avais rechargé quelque part mon énergie pour bien m'amuser avec mes potes. Donc, il faut aussi que tu puisses le comprendre peut-être comme ça, le ressentir comme ça. C'est vrai que je suis d'accord, c'est pas marrant de s'ennuyer, mais ça peut être très utile.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, c'est le moment où Arthur, il se confronte à ses ressources propres, quoi. Et ce qui est important, Arthur, c'est que tu te dises que, effectivement, sur le coup, ça te paraît peut-être un peu désagréable, mais c'est comme, pour moi, c'est un peu comme une baguette magique qui va pouvoir faire apparaître d'autres choses. Tu vois, ce petit moment, sur le coup, il te paraît un petit peu inutile, mais essaye de visualiser cette baguette magique et de voir ce qui peut ressortir de ça. Je trouve que c'est une image peut-être qui pourrait t'aider.
Arthur qui va se transformer en Harry Potter. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Arthur, et belle journée du 1er mai. Allez, vous pouvez continuer à témoigner si vous êtes un enfant comme Arthur. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor. Le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelait entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lançais d'un comme un marin sur une plage.
le duo Voyou et Yel interpréter Les bruits de la ville.
Il n'y a pas la télé.
Grand bien vous fasse.
Il se dit que c'est peut-être ça le secret qui sauverait le monde. Accepter de s'ennuyer.
Sur France Inter.
10h51, faut-il laisser les enfants et les adolescents s'ennuyer? C'est notre thème ce matin. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Alors, pour combler le vide de l'ennui, on se tourne souvent vers les écrans, des écrans souvent perçus comme des doudous contre l'ennui. Mais contrairement à une idée reçue, les outils numériques peuvent être une source d'ennui. En 2014, la chercheuse en communication Joëlle Menrath a mené une enquête ethnographique auprès de 25 adolescents âgés de 12 à 17 ans. Et elle montre que les jeunes passent du temps, certes, sur les réseaux sociaux, mais dans un état de semi-ennui. Et Joëlle Menrath nous dit que les outils numériques sont devenus une prolongation de l'intériorité. Et donc que c'est aussi le miroir aussi d'un ennui ou d'un semi-ennui, cet usage des réseaux sociaux ou des écrans. Erwan Devez, je rappelle que vous êtes chercheur en neurosciences.
Oui, c'est un point très important parce qu'on pense toujours que l'ennui est la conséquence de rien. Alors que, en fait, là, dans ce cas présent, l'ennui est la conséquence d'une insatisfaction et d'une frustration. C'est-à-dire que les gamins sont devant les écrans pendant 5 heures, 6 heures, etc. Ils sont en automatique. Ça leur plaît pas parce que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. L'habituation hédonique, en fait, fait que le niveau de plaisir diminue. Et donc, on voit bien l'illusion, même le danger, en fait, de vouloir combler cet ennui par une suractivité. Ça ne mènera nulle part. Et c'est exactement ce qui est dit dans cette étude.
Gonelle Boulet.
Oui, je pense que l'écran, il permet comme ça de tenir à distance l'ennui pendant un certain temps. C'est-à-dire que il va permettre au cerveau pendant un moment de prendre une distance par rapport au fait de se confronter à sa propre intériorité, etc. Donc ça va être une diversion, mais qui va pas durer longtemps, effectivement, puisqu'au bout d'un moment, quand vous ressortez d'avoir regardé 6 heures de série, ou certes, pendant ces 6 heures de série, vous n'avez pas pensé à vos propres problèmes, etc. Donc, ça fait diversion. Mais quand vous rééteignez au bout de 6 heures de série, vous allez sentir ce même vide qui va revenir. Et de ressentir ce même désagrément à la fin, vous vous rendez bien compte que ça remplit pas la case, quoi.
Et puis nos enfants nous regardent faire, nous dégainons nos smartphones, nos tablettes, dès que nous nous ennuyons dans le bus, le métro, dans une file d'attente. Erwan Devez.
Ben oui, c'est bien le problème, c'est-à-dire faut toujours se méfier du mot d'exemplarité, mais ouais. Vous savez, les enfants apprennent par mimétisme inconscient. Et le mimétisme inconscient, c'est quoi? C'est qu'ils nous regardent. Ils nous regardent faire, consciemment et surtout inconsciemment. Et donc, si on tient un langage et notre comportement est tout l'inverse, évidemment, faut pas s'étonner après que l'enfant soit un petit peu perdu.
Didier Pleu, psychologue.
Oui, je voulais revenir sur ce qu'on a dit à propos de l'ennui et de l'habitude. C'est vrai que si un enfant est toujours habitué à obtenir du plaisir et du plaisir immédiat, ben très vite il se trouve insatisfait, parce que je suis pas très lacanien, mais Lacan avait quand même dit que la jouissance tue le plaisir. Donc effectivement, l'ennui peut survenir parce que on a un trop-plein, on fait tout le temps les choses très plaisantes, très agréables, très quotidiennes, et à un moment donné, il n'y a plus d'étonnement, il n'y a plus rien du tout, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'ennui aussi peut signifier qu'il y a un trop-plein d'autres choses.
Alors, en préparant cette émission, Gonelle Boulet, vous m'avez dit qu'apprendre à s'ennuyer, à s'occuper seul, c'est un véritable cadeau fait à son enfant. Et pour aller dans votre sens, j'aimerais citer la psychanalyste Etty Buzyn. Elle nous dit, grâce à l'ennui, l'enfant découvre un espace de liberté qui n'est pas contrôlé par les parents. Il a pris voit sa solitude, ce qui renforce sa confiance en lui.
Oui, je crois vraiment qu'il faut se redire que c'est un vrai cadeau qu'on lui fait, parce qu'on lui permet vraiment de développer sa propre personnalité et ses propres capacités à aller chercher les bonnes ressources. Et ce qu'on disait, ses propres capacités peuvent être d'aller sonner chez le voisin pour aller chercher un copain. Sa propre capacité peut être de se replonger dans ses livres. Ces outils ne peuvent lui être que individuels. Et si on continue à lui fournir des outils pour combler son ennui, à quoi on l'habitue? À un manque d'autonomie totale. C'est-à-dire qu'il va toujours aller chercher des stimuli extérieurs pour combler son propre ennui. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on lui fait de dire je crois en toi, je suis persuadée que tu vas trouver une bonne idée, mon chéri. Et en être persuadé soi-même.
Et la psychanalyste Edith Buzyn nous dit également, grâce à ces moments d'ennui, l'enfant va décider de lui-même ce qui l'intéresse et va développer ses capacités créatives. Il va s'inventer des histoires ou des jeux, se mettre à lire et même peut-être découvrir de nouvelles passions, éphémères ou pas. Erwan Devez.
Oui, l'ennui, il y a eu des études très intéressantes de corrélation entre l'ennui et l'autonomie. On se rend compte que les enfants qui s'ennuient assez régulièrement sont plus autonomes parce qu'effectivement, ils doivent trouver les réponses tout seuls. Et ils doivent s'inventer des imaginaires tout seuls.
Mais pour tirer bénéfice de l'ennui, les enfants ont besoin de développer des ressources internes. Il faut préparer le terrain.
Ouais, je pense vraiment que ça s'apprend. C'est pour ça que là, il y a peut-être des gens qui vont écouter ces missions, qui vont se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais dire à mon enfant, ennuie-toi mon chéri.
Comment on s'y prend? Comment voilà, on prépare comment le terrain?
Voilà, d'un enfant qui n'aura jamais été habitué à ça, on ne peut pas passer du jour au lendemain. Faut se sevrer un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, je pense que par exemple, sur des petits aussi, ou sur des enfants qui n'ont pas l'habitude, on peut aussi commencer une activité ensemble. Je veux dire, bah tiens, on sort les peintures, là, les feuilles, je commence avec toi, mais par contre, après j'y vais, tu finiras tout seul. Donc, on peut aussi commencer des choses ensemble et puis le laisser terminer. Et puis je vous dis, ces histoires de boîte à idées, avec boîte ou pas boîte, mais ça se travaille. C'est-à-dire que ces moments, ils vont se nourrir d'autres choses. Donc de pouvoir de temps en temps dire au fait, je dis, quand on est dans un magasin par exemple, de regarder les activités manuelles, etc. Tu te dis, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui te branche là-dedans? Et de le prendre en disant, ben, la prochaine fois que tu t'ennuies, tu sais que t'as cette boîte-là. Ça se prépare peut-être aussi ensemble.
Erwan Devez.
Oui, un mot peut-être sur la respiration, parce que les techniques de respiration et de méditation, alors je sais bien que c'est pas facile avec les enfants, hein, on va pas se raconter d'histoire, c'est pas facile, mais c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau, justement, ça permet de préparer le cerveau pour qu'il soit dans les meilleures dispositions. Et je voudrais peut-être conclure sur, vous savez, Pierre Rabhi parle beaucoup de sobriété heureuse, et je crois qu'il faut que chacun de nous-mêmes allions vers une sobriété neuronale heureuse. C'est-à-dire arrêter le toujours plus et le trop plein et être un tout petit peu plus qualitatif.
Hélène nous dit, je travaille entre guillemets à cultiver des moments d'ennui pour mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, mais je dois résister car c'est souvent difficile de faire accepter aux autres adultes qu'aujourd'hui on ne fait rien, ce n'est pas considéré comme positif, mais j'éprouve du bonheur à voir mes enfants jouer dehors et à ne rien faire. Didier Pleu, un mot de conclusion.
Mot de conclusion, je dirais que l'ennui, c'est bien l'expression d'une frustration, et pour moi, la frustration participe à la construction psychique de l'être humain, donc la frustration, ben c'est l'ennui qui provoque de l'autonomie, de la créativité, de la singularité, donc ça n'est pas évité.
Tiens, il y a Mathilde qui nous demande si s'ennuyer, c'est un signe de trouble psychique, Didier Pleu, de s'ennuyer souvent.
Non, je ne pense pas. C'est-à-dire, pour l'enfant, ça me paraît, ça participe à sa construction. Quant à l'adulte, effectivement, s'il est tout le temps dans de la dépression du spleen, là, ça peut devenir un trouble psychique. Mais au départ, je ne pense pas.
Merci à tous d'être venus en ce 1er mai. Merci Erwan Devez. Je recommande vraiment 24 heures dans le cerveau de votre enfant. C'est publié chez Larousse. Merci Didier Pleu. Développer la concentration de son ado, c'est chez Odile Jacob. Gonelle Boulet, le dernier numéro d'Astrapi est consacré aux animaux, les animaux super docteurs. Merci d'être venus. Demain, on s'intéresse au plaisir de cuisiner en semaine et surtout le week-end, seul en famille ou entre amis. Pourquoi prenez-vous le temps de cuisiner? Qu'avez-vous transmis en cuisine à vos enfants ou petits-enfants? Qu'avez-vous appris au fourneau avec vos parents, oncles ou tantes? Racontez-nous les tours de main et savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Contactez-nous au 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.